bienvenue dans cette seconde partie du Libre Journal des Sciences. Libre Journal des Sciences, toujours animé et présidé par votre serviteur David Mascret. Libre Journal des Sciences, en ce jour de Noël, consacré à une question fondamentale, celle de la connaissance du transcendant, celle de la connaissance des premiers principes, ce que Aristote appelait les principes même de l'être et les principes de la connaissance. Pour en parler dans ce studio, j'ai l'honneur de recevoir et d'accueillir Maxence Caron. Maxence Caron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, vous êtes écrivain, vous avez produit récemment un grand nombre d'ouvrages, 4 pour cette seule année 2009, qui fut donc une année prolifique et féconde. Je veux citer l'avant-dernier d'entre eux, bien évidemment, au premier chef, « La vérité captive », sous-titré « De la philosophie », paru en coédition aux éditions donc du Cerf et Ad Solem. Mais vous avez produit tout un ensemble d'autres ouvrages avant cela. Je voudrais citer ici Heidegger, pensée de l'être et origine de la subjectivité, qui est, je crois, un condensé de votre thèse.
C'est la thèse intégralement, et donc qui est disons qui représente une somme de travail d'une part et une somme tout court d'autre part, et que l'on accuse d'être trop grosse. C'est l'argument fondamental que l'on m'a opposé depuis le départ. Votre livre, cher monsieur, est trop gros. Donc on ne peut pas le lire, donc il n'est pas bon. Voilà, c'est exactement le genre de critique que j'ai reçu jusqu'à présent sur ce livre. Vous voyez à peu près à quel niveau se situe le débat.
Cela me fait penser à cette remarque que l'on voyait figurer dans le film Amadeus de Miloš Forman.
Il y a trop de notes. R. Caron, il y a trop de notes.
Voilà, lorsque l'empereur Joseph, si ma mémoire est bonne, écoute un concerto de Mozart.
L'enlèvement au sérail. Il écoutait l'enlèvement au sérail et à la fin, effectivement, il dit que c'est trop surchargé en notes.
Trop de notes.
Qu'eût-il dit s'il avait survécu et qu'il avait écouté un certain Ludwig van Beethoven, qu'il devait surcharger du concerto L'Empereur, qui est le générique même de cette émission.
C'est ici l'occasion de rappeler, Maxence Caron, que vous êtes également évidemment musicien, pianiste notamment. Et que vous avez d'ailleurs sur ce thème écrit et publié récemment un ouvrage tout à fait intéressant intitulé Page.
Oui, Le sens, la musique et les mots, qui est un ouvrage de musique essentiellement et de littérature où les poètes et les musiciens s'entrecroisent et où j'essaie de déployer une pensée de la musique à une époque où la musique est devenue un domaine de spécialistes qui vous décortique une partition uniquement pour vous raconter que c'est un accord de septième de dominante ou un accord de neuvième diminué, mais jamais pour relier la signification de ces termes techniques à la signification générale, la signification existentielle qu'un compositeur a pu vouloir y mettre à travers son art.
Ce qui nous fait d'ailleurs rejoindre le thème même de cette émission, puisque la question du sens sera au cœur de notre réflexion. Et je crois que l'analyse que vous venez de faire des rives ou peut-être des impasses d'une certaine musicologie rejoint à plein l'analyse que vous êtes en train de produire de manière tout à fait magistrale à travers vos différents ouvrages, des impasses en quelque sorte dans lesquelles s'est enfermée une partie de la philosophie contemporaine. Et donc, par-delà la philosophie, évidemment aussi une partie de la démarche scientifique elle-même, prisonnière sans doute d'une approche purement technicienne, purement nombriliste, purement narcissique, nous allons le voir, en tout cas déconnectée de la question ultime des fins. Alors, première question, Maxence Caron, dans cet ouvrage « La vérité captive », de la philosophie, paru donc aux éditions Le Cerf Ad Solem, qu'avez-vous voulu mettre en avant?
C'est un ouvrage assez long, une longueur que j'ose imaginer non artificielle. Par conséquent, c'est un ouvrage riche. Je ne peux pas en deux mots en résumer totalement l'argument. Ce que je peux éventuellement dire, c'est la question qui s'est imposée à ma méditation personnelle et qui a présidé à l'élaboration de ces nombreuses pages. La principales préoccupations de cet ouvrage, c'est de constater que la philosophie, aujourd'hui, s'est enfermée dans une présupposition qu'elle ne voit plus du tout et qui est la suivante. On admettra qu'une philosophie est valable dès lors qu'elle mettra au principe quelque chose, quelque élément, quelque réalité, entre guillemets, de fluent, de mouvant, de fluide, de mobile. Depuis Kant jusqu'à nos jours, la principialité, c'est-à-dire l'essentiel qui gouverne toute forme de pensée, se doit d'être une forme non fixe, une forme instable, une forme pleine de vicissitudes. Le dieu de Hegel est un dieu qui doit être inscrit dans une mobilité permanente, dans une dialectique où il se retrouve lui-même par-delà la position d'un monde où il finit par reconnaître sa propre forme. Le dieu de Nietzsche est un dieu qu'il nomme Dionysos en jouant sur l'étymologie du terme du dios, simplement de la dualité du terme. Les différentes formes de divinité vont toujours apparaître en philosophie, de divinité ou de principe, d'essence suprême, vont toujours jouer sur cette mobilité. Et cela, la philosophie ne va pas s'en apercevoir. Elle va considérer que toute forme de mobilité est par elle-même une valeur. Elle va le considérer de manière non critique. Dès lors, tous les concepts d'éternité, de stabilité, de stance, de substance, vont se retrouver critiqués, a priori également. Si bien que ce qui fait la quête de toute pensée, et je dirais même la quête inconsciente de toute pensée, ce qui meut toute pensée à être une pensée, ce qui fait que la philosophie part conquérante à la quête du bonheur et des fins dernières, va être tout simplement débouté de ses prérogatives. Et de fait, s'il n'y a plus de fin pour la philosophie, il n'y a plus de philosophie non plus. Et c'est précisément ce que nous constatons aujourd'hui. Il n'y a plus, qu'on le veuille ou non, de philosophie. Il y a des petits noms propres qui se promènent dans les rayonnages des librairies du Quartier Latin et au milieu des chaînes de télévision qui accordent encore une petite place au discours, au milieu des chaînes de radio subventionnées ou ce genre de choses. Mais il n'y a plus de philosophes, il n'y a plus de philosophie, il n'y a plus de quête philosophique, il n'y a plus de quête du sens des principes, il n'y a plus de quête de l'essentiel. À partir de ce constat d'une époque qui n'accorde plus aucun sens à la notion de divinité, à la notion de stabilité, d'essence, de superessence, de suressence, de suressentiel, de principialité, etc., etc., de stabilité, eh bien, il ne peut plus y avoir de pensée. Et il n'y a plus que des petits secteurs régionaux où s'exerce la conceptualité humaine qui, non contente de se constater finie, démultiplie sa finitude. À partir de là, que pouvez-vous avoir d'autre que des formes totalement insatisfaisantes qui ne font qu'ajouter la confusion à la confusion, qui ne font qu'ajouter des couloirs supplémentaires à cette Babel qu'est la civilisation contemporaine. Contre cela, il fallait tout simplement, non pas simplement réagir, râler, ce que je sais évidemment faire d'une certaine façon, il fallait tout simplement revenir aux sources qui ont permis à un tel état de la philosophie d'établir ses quartiers. Il fallait pouvoir remonter à la source de cet héraclitéisme de masse, de cette volonté d'établir une fluidification universelle des principes, et pour cela trouver le cadre intellectuel au sein duquel une catastrophe comme la pensée de notre époque est possible. Une catastrophe au sens grec, c'est-à-dire une déferlante vers le bas, une chute telle que Dante a pu la décrire dans la première partie de la Divine Comédie, dans l'enfer, on descend les degrés de la Malbolge Bon,
qu'est-ce que la Malbolge?
La Malbolge, vous savez, c'est quand on est dans l'enfer, on arrive à l'avant-dernier cercle et à chaque fois il y a une sorte de marche qui vous fait descendre un peu plus bas vers cette espèce de trou, de bidet qui est le fin fond du fond de l'enfer. Voilà, par degrés, tout simplement.
Nous passons tous par le vortex, en quelque sorte, qui nous amène à l'égout.
Oui.
Enfin, tous, en tout cas, ceux qui s'enfoncent dans cette catastrophe.
Dante, dans son périple au sein de l'enfer, arrive à l'avant-dernier cercle, et dans cet avant-dernier cercle, il y a, avant d'arriver donc au tout dernier cercle de l'enfer, il y a cet escalier, je dirais, fait de différentes couches, où à chaque fois le pire se laisse advenir au regard, et à chaque fois un degré d'horreur supplémentaire. Bon, et bien, cet escalier, nous le descendons actuellement. On a l'habitude de dire que le chemin sur Terre est un purgatoire. Le purgatoire actuellement est en train montrer qu'il peut être une descente vers l'enfer. Il y a peut-être une Malbolge du purgatoire humain qui conduirait directement vers l'enfer de la pensée.
Alors, en cette journée de Noël, évidemment, nous n'évoquerons pas seulement le risque de l'enfer, mais évidemment aussi la possibilité du paradis, puisque c'est sans doute aussi l'une des bonnes nouvelles
mais c'est
de
bien,
ce jour
mais
très
le Christ a pris notre chair de péché, il a pris sur lui notre purgatoire et notre possibilité, il a pris sur lui la massa damnata, pour reprendre l'expression de Saint Paul. Donc, dans un jour de Noël, dans un jour d'incarnation, il faut savoir, comme le montrait magnifiquement ce grand théologien du XVIIe siècle qui s'appelle Louis Chardon, que j'invite nos auditeurs à découvrir. Louis Chardon, qui était un homme que Claudel lisait beaucoup, Louis Chardon qui expliquait que de prendre la chair de l'homme pour le Christ a été quelque chose de très douloureux en soi. L'incarnation fut douloureuse, la vie du Christ sur terre fut douloureuse, et pas seulement au moment de la croix. Porter la chair humaine quand on est soi-même le Fils de Dieu, quand on est la deuxième personne de la Trinité, c'est quelque chose qui est constamment douloureux, et non pas simplement au suprême moment de douleur qu'est la crucifixion, qu'est la passion. Le soir de Noël est un soir à la fois de pénitence et d'espérance, mais c'est un soir d'humilité, c'est un soir de nuit, où règne une lumière certes, une lumière bien sûr, mais c'est un soir qui préfigure Pâques,
une lumière
la nuit préfigure Pâques, et les lumières, les étoiles préfigurent la résurrection encore assez lointaine. Voilà, donc Noël est un moment de gloire en espérance, mais ce n'est pas un moment, je dirais, uniquement de gloire que nous aurions sous la main. Le Fils de Dieu qui naît ce soir, pour nous autres qui avons la grâce d'avoir reçu la vérité, ce soir de Noël est un soir autant de recueillement devant les épreuves que d'espérance dans une victoire qui est certaine pour ceux qui ne seront pas vaincus.
Alors effectivement, tout est lié, comme souvent, et votre propos nous ramène directement au cœur de votre ouvrage. Vous nous avez effectivement fait une sorte de confession de foi à l'instant, mais qui ramène fondamentalement à la question capitale que vous traitez dans cette œuvre, la vérité captive, la question de la vérité, et derrière elle, la question évidemment de l'être. Ce que vous soulignez avec beaucoup de force, c'est précisément la puissance de ce parti pris, en quelque sorte, du mobilisme, de l'hypermobilité dans la pensée contemporaine, et parti pris, nous allons voir, qui se réfléchit jusque dans les sciences les plus dures, les plus sérieuses, les plus adossées à l'idée de logique et de rationalité.
Mais ce que j'appelais le transitivisme. Le transitivisme de l'époque contemporaine, qui aboutit à un immanentisme.
Alors effectivement, on peut en rappeler quelques étapes. Je vous cite page 48. « L'héraclitéisme de masse pose un principe indéterminé dont on ne veut rien savoir, que ce qui en lui ne contredit pas que nous soyons les petits êtres satisfaits que nous sommes et ne contredit pas que nous n'ayons rien d'autre à faire qu'à être ce que nous sommes alors révélés être au premier degré. de telle sorte que seule la description semble pouvoir aujourd'hui combler ce désir de sacraliser nos défauts et faiblesses à l'aide de l'indétermination d'un principe que la philosophie sert à conforter autant qu'à lointainement évoquer. Donc première chose, le principe même de cet héraclitéisme, c'est qu'il nous, il mutile la raison, il l'empêche de remonter à la question des fins, du pourquoi, et il la cantonne immédiatement dans la simple idée de description. Nous sommes prisonniers du phénomène.
Ben, oui, mais c'est surtout ce qui est. Alors ça, c'est le résultat de devenir prisonnier du phénomène, de vouloir rendre la vérité captive. C'est le résultat. Mais ce qui est magnifique d'horreur, si je puis me permettre cet oxymore un peu curieux, ce qui est effroyable, c'est une raison qui se mutile elle-même, une raison qui se retourne contre elle-même. C'est en quelque sorte un premier état de la damnation, au sens où le damné, c'est bien celui qui va se faire auto-souffrir pour l'éternité en retournant tout ce qu'il aura de capacité à voir Dieu contre lui-même en refusant en permanence Dieu. C'est celui qui a refusé Dieu de toute éternité et qui continuera pendant l'éternité à subir le choix qu'il a fait pour l'éternité. Donc là, qu'est-ce que vous avez ? Une raison qui refuse de dire que les choses sont rationnelles, d'une certaine manière, et que par-delà la rationalité de la raison, pour prouver que la raison peut atteindre son objet, il faut un élément au sein duquel la rationalité et l'objet qu'elle dessine sont en communion. Cet élément est évidemment un élément suprarationnel, que l'on peut, dans un premier temps, ne pas nommer le divin.
Ou que l'on peut appeler de diverses manières.
De diverses façons, mais qui s'avère être par la suite.
Que toutes les langues communément, disons, ont appelé d'un même mot.
Oui, enfin, en tout cas, qui est un élément surnaturel, quoi qu'il arrive, puisque la raison naturelle y trouve son propre fondement, et qu'elle ne peut y trouver la grâce de son propre exercice utile, et même, je dirais, efficace qu'à partir du moment où elle le reconnaît. Donc une raison qui affirmerait que la raison n'est pas, nous sommes dans une posture de masochisme schizophrène qui est tout simplement le vade-mecum de toute forme de pensée aujourd'hui, aussi sophistiquée soit-elle, que l'on aille dans les fins fonds de la phénoménologie la plus sophistiquée, la plus complexe, la plus pénible à lire et dont on a l'impression qu'elle est très très puissante parce qu'elle est très complexe à lire, et qu'on soit au contraire dans des petits
les romans de Christine Angot
ou qu'on soit dans les petits manuels de philosophie les readers philosophie digest, bon, eh bien à chaque fois c'est la même chose, à savoir la pensée dit d'elle-même qu'elle ne peut pas penser. Bon, mais c'est très bien, enfin quelle affirmation puissante. Bon,
de même que la philosophie contemporaine, une bonne partie comme vous l'analysez, se résume à dire que l'être ne peut pas être, quelque part.
Oui, voilà,
qu'il a l'obligation à ne pas être.
Alors, rappelons-nous la phrase de Parménide, mon fils, tu ne diras jamais cette chose, sors de ce sentier, tu ne diras jamais que l'être n'est pas ou que le non-être est. Sors de ce sentier.
Ce qui est le principe même qui va déterminer toute l'histoire de la pensée scientifique occidentale, le principe de non-contradiction. On ne peut pas dire l'être n'est pas ou le non-être est.
Mais là, on est en plus, le principe de non-contradiction va surtout avoir lieu d'un point de vue méthodologique au sein de l'exercice des sciences. Bon, c'est très noble, c'est très beau, mais là, il s'agit surtout du mot le plus riche et en même temps le plus insaisissable, étant donné la réalité qu'il désigne, le mot « être ». Quand Parménide nous dit « l'être est, le non-être n'est pas » et qu'il recommande à son disciple, qu'il appelle « mon fils », avec une très grande tendresse, qui lui dit « tu ne pourras jamais dire que l'être n'est pas ou que le non-être est », quand il lui recommande cela, il lui dit tout simplement « ne va pas sur les routes de l'insensé ». Comment dire de l'être qu'il n'est pas ? Ce serait exactement la même chose que de dire que le rond
est carré, etc.
Bon, donc, sauf que là, il s'agit d'un domaine de réalité bien plus important que celle du rond, que celle du carré, et de celle de leur alliance improbable au sein d'un même concept. Dire de l'être qu'il n'est pas, c'est tout simplement inventer un monstre logique à partir de la liberté que nous possédons de dire n'importe quoi. Donc, la meilleure preuve, si vous voulez, de l'existence de l'être, ce n'est même pas de dire que l'être est, c'est de dire l'être. il suffit de le dire pour qu'il soit, puisque si jamais il n'était pas, je ne pourrais même pas prononcer son nom.
Oui, le simple fait que nous parlions est déjà une manifestation de l'existence d'un être antérieur.
C'est comme si je disais « je ne parle pas », si je dis « je ne parle pas »,
au moment même où je le dis, je le parle,
voilà, c'est une action qu'on appelle performative.
Alors, ce qui est intéressant, effectivement, dans votre démarche, c'est que cette analyse de la dénégation première nous permet de ressaisir tout ce qui fait toute une partie du drame de la philosophie contemporaine. Je résume en quelques mots votre propos, en vous citant d'ailleurs. La philosophie immédiatement contemporaine se répartit en effet à travers deux activités. D'une part, la description de ce que nous sommes, où l'on mobilise un lexique effarant afin de donner du relief au statu quo et à notre stance, c'est-à-dire une sorte de nombrilisme absolu qui consiste à se porter sur ce qui aujourd'hui fait notre état, comme s'il n'y avait pas d'autre évolution possible, comme si nous n'étions pas appelés à une condition supérieure. Et puis une autre dimension, qui est celle sur laquelle vous allez vous appesantir le plus longuement, qui est la critique des pensées métaphysiques, hein, critique qui va devenir absolument obsessionnelle, obsessive, omniprésente dans un certain nombre de démarches contemporaines. Alors, pouvez-vous nous caractériser un peu chacune de ces deux dimensions ? Cet hyper-nombrilisme que l'on voit aujourd'hui s'étaler jusque dans les formes littéraires ou dans peut-être ce qui est cette forme de pornographie contemporaine qui s'appelle la télé-réalité, et puis de l'autre, cette obsession, cette haine de la métaphysique, cette obsession consistant à vider la métaphysique de tout contenu, à nier même jusqu'à la possibilité de dire quelque chose de sérieux sur l'être.
Alors, bon, pour ce qui est de la haine de la métaphysique, les choses sont assez claires. Il y a tout simplement une volonté de montrer que l'immanence est au principe, et cette volonté de montrer que l'immanence est au principe a quelque chose, une conséquence évidente. Quand on montre que l'immanence est au principe, tout ce qui est métaphysique a pour domaine d'exercice un champ que l'on considère archaïque. Bon, ce champ que l'on considère archaïque, c'est celui de ce qu'on appelle la vieille métaphysique.
Donc, alors vous avez le principe du ringard. Plutôt, c'est ce qui a donné naissance à cette idée du ringard dans le langage contemporain.
Nous sommes toujours dans cette idéologie que Baudelaire, Flaubert, la plupart des très grands poètes du XIXe siècle ont déterminé comme étant l'aberration suprême, l'idéologie du progrès. Donc aujourd'hui, la science de ce qui est pérenne, de ce qui est grand, de ce qui est de ce qui ne bouge plus parce que ça a régné sur notre intelligence et ça doit déterminer notre action de manière durable. Cette science qu'on appelait autrefois la philosophie et qui aujourd'hui ne voit que des activités de petits histrions qui se nomment philosophes mais qui ne sont philosophes que de nom, cette science n'existe plus au sens où elle se veut pleine de ce qu'on appelle le progrès. Le progrès qui consiste à dire qu'il y a...
Le progrès, la vidée de sa substance.
Le progrès, mais qu'est-ce que vous voulez parler du progrès en matière de vérité ? Ce sont deux termes antithétiques. La vérité, c'est ce qui dure, ce qui ne changera pas, ce qui est tellement riche qu'on peut la redécouvrir sans cesse en découvrant des richesses toujours nouvelles. Et vous avez une bande de faramineux petits plumitifs qui vont s'auto-congratuler en officine stérilisante pour vous expliquer qu'il y a un progrès depuis la métaphysique. Alors ils vont pour cela s'appuyer sur les penseurs les plus récents, les grands noms les plus récents, et notamment Heidegger, l'inévitable, qui, malgré toute la puissance de son œuvre, que je suis le premier à reconnaître, et que je suis le premier également, dont je suis le premier à voir les limites de manière un peu sérieuse, c'est-à-dire sans le cantonner à des critiques trop faciles, Heidegger a critiqué la métaphysique dans des termes très précis. Et alors, le moindre petit profaillon va vous expliquer que maintenant, on doit partir de Heidegger pour vous expliquer que, en quelque sorte, tout ce qui s'est passé avant n'existe plus.
Donc, la critique... une forme de constat que fait également un penseur comme Alain Finkielkraut, c'est-à-dire que La posture contemporaine, la posture intellectuelle contemporaine, c'est le refus même de tout héritage, de toute transmission, parce que par essence, l'acte premier de toute pensée consisterait à critiquer et à refuser en quelque sorte l'existence même
oui, alors,
de la métaphysique.
Le mérite de Finkielkraut, quand il lui arrive de ne pas passer trop de temps à la télévision, le mérite de Finkielkraut, quand il lui arrive donc de travailler, c'est d'établir cette équation tradition égale travail. Égale transmission, refus de la tradition égale paresse. Bon, c'est évidemment pas très original, mais ça a le mérite au moins de vous rappeler quelques vérités de base que notre époque a la fâcheuse manie et la honteuse habitude de dissocier. Malheureusement, aujourd'hui, il est évident que faire le moindre effort est une religion. Donc, il se trouve que la métaphysique aujourd'hui, c'est devenu un gros mot, une insulte pour toute philosophie qui n'est pas semblable aux tentatives récentes de penser ailleurs que dans ce qu'on appelle avec une sorte de nonchalance et puis surtout de paresse à définir le terme, la tradition occidentale. Voilà, alors ça c'est magnifique. Que veut dire occidental? On n'en sait rien. Que veut dire tradition? On n'en sait strictement rien, puisque précisément on n'en est absolument pas imbibé. On ne veut pas s'en imbiber. Alors voilà, la critique de la métaphysique, ça part de différents courants. Il y a ceux qui ressemblent tout simplement aux 68 arts de base, qui pensent qu'il est interdit d'interdire et que la transmission d'une tradition est l'interdiction par excellence.
Oui, par essence fasciste, puisqu'elle impose un ordre en quelque sorte.
Voilà, vous savez bien que l'écriture est fasciste, comme disait l'autre. Donc, de toute façon, toute transmission de style, toute transmission de langue, transmission de pensée, etc., sera une insulte. À partir de ce moment-là, dans la philosophie, ça se répercute comment? Eh bien, on va être extrêmement content de trouver qu'il y a des penseurs qui vont refuser certains héritages. Alors, ces penseurs le font de manière extrêmement puissante et pour des raisons très fortes. Quand on voit Heidegger parler de métaphysique, évidemment, c'est pas la même chose. Quand on voit Jean-Luc Marion s'autorisant de Heidegger sans en parler correctement pour critiquer la métaphysique. Bon, donc c'est pas du tout la même chose. De même, quand on voit Derrida parler de la métaphysique comme d'un logocentrisme, etc. Enfin bon, tous ces délires ridicules qui attrapent à la glu de leurs âneries les contemporains. Les moins exigeants pour eux-mêmes et pour l'avenir qu'ils veulent léguer à la pensée, à la science, aux lettres et aux arts. Bon, donc ce principe-là, c'est tout simplement un principe de paresse qui, pour pouvoir provoquer un immanentisme croissant, immanentisme c'est-à-dire un amour des choses telles qu'elles sont et de l'épaisseur du réel tel qu'il permet de
le
ne pas penser...
Le plaisir de se vautrer dans la boue dans la fange dans laquelle nous croupissons au quotidien.
Oui, enfin...
Et de surtout ne pas vouloir
surtout,
en sortir.
Surtout le plaisir... je ne sais pas si le quotidien est forcément de la boue, mais en tout cas le quotidien, au sens où il ne demande aucune autre manière...
De jamais vouloir sortir de la marque.
Aucun autre comportement que celui de rester ce que nous sommes sans jamais aucune conversion, c'est-à-dire aucune autre attitude que celle de se contenter de ce qu'on est et de ne jamais se tourner vers les essences, vers l'essentiel. Bon, pour pouvoir rester dans l'état où nous sommes sans jamais bouleverser quoi que ce soit de nos schémas de pensée, nous avons inventé. Notre époque a inventé, parce que je ne veux pas être solidaire de cette espèce de courant de pensée minable, donc notre époque a inventé le mot métaphysique, dans lequel elle met tout et n'importe quoi.
Et également, le rebut de l'histoire, le rebut de la pensée.
Oui, mais alors le rebut de l'histoire pour elle, c'est simple, c'est l'histoire en entier, vous voyez. Donc, et là, on retrouve les vieux tics français de la table rase, du
oui,
passé, faisons table rase.
C'est ce que vous montrez entre un certain esprit révolutionnaire qui est dans l'incantation, en tout cas, du progrès révolutionnaire, qui voit dans la révolution forcément ce qui permet d'accomplir, en fait, la promesse du progrès. Et puis, justement, cette dénégation, ce refus même de l'être, ce refus même des principes et de l'ordre qui, finalement, structure et toute pensée.
Révolutionnaire,
et toute science.
Révolutionnaire au nom de quoi? Parce que un révolutionnaire, c'est un fou furieux, le couteau entre les dents et l'écume au bord des lèvres, qui n'arrive même plus à avaler sa salive, tant le métal qui lui... astique la papille, ne lui permet pas de la moindre absorption buccale. Bon, donc, d'accord, mais eux, ces gens-là, les gens de l'immanentisme, les gens de ce que j'appelle cette période qui dépasse désormais la postmodernité, les gens de l'outre-modernité dans laquelle nous sommes, ces gens-là ne sont pas des révolutionnaires, ce sont, comme dit magnifiquement Philippe Muret, des insurgés du juste milieu. C'est-à-dire que les révolutionnaires d'aujourd'hui ne sont là que pour défendre leur précaré de petits plaisirs hédonistes minables, encore une fois.
Oui, c'est l'époque de la ruse, de la raison, en l'occurrence.
C'est l'époque du minus et du minable, que ce soit dans la pensée, dans les arts, etc. C'est l'époque où il faut être uniquement le misérable petit tas de secrets que nous sommes, et éventuellement en dire deux, trois petites choses pour croire pouvoir faire œuvre.
Et que l'on devient le nombril du monde.
Voilà, bah, le nombril du monde, ou le monde, le monde du nombril. Donc, un nombril qui est rattaché par un cordon ombilical à une espèce de matrice niaise d'où l'on serait alimenté sans cesse, et cette matrice de niaiserie se voit dans absolument toutes les productions contemporaines, à l'exception de quelques veilleurs qui ont compris que la vérité ne se trouverait pas dans ce genre de pratique. Donc la critique de la métaphysique, c'est un symptôme beaucoup plus qu'une pratique. Quelqu'un qui vous dit la vieille métaphysique, ou qui met métaphysique entre guillemets pour la mettre bien à distance, etc. Non pas qu'il faille réhabiliter la métaphysique en son entier, mais rien que le fait de nommer la métaphysique pour nommer 2500 ans d'histoire de la pensée est une telle aberration, est une telle vulgarité, est une telle nullité, surtout quand on voit ce qu'il en sort par ailleurs comme manière de penser, si c'est pour faire du Derrida ou du Jean-Luc Marion, alors quand on voit cela, on se dit que on ne peut être face à autre chose qu'à un symptôme, une maladie, une pathologie de la pensée. Cette pathologie n'est rien d'autre que celle d'inventer un petit système misérable dans lequel il n'y a rien d'autre à faire que d'être soi-même au plus bas niveau et de trouver la conceptualité qui va avec le conservatisme de l'hypogastre afin de pouvoir sans cesse n'être soi-même le reflet d'une époque avachie sur son esprit de consommation immédiate.
Alors je veux bien revenir avec vous sur les étapes qui ont permis ce processus, en quelque sorte, cette évolution, et peut-être d'abord l'étape historique qui est la plus simple et la plus facile à identifier. Je vous cite encore, en vous résumant, page 28 de votre ouvrage, donc « La vérité captive de la philosophie ». Vous analysez quelques-unes des grandes étapes, des grands épisodes qui ont jalonné en quelque sorte ce parcours et qui tous, d'une manière ou d'une autre, sont allés dans la même direction, celle de ce mobilisme, cet héraclitéisme que vous dénoncez à l'instant. Pas une pensée, je vous cite, pas une pensée de nos jours, pas une pensée au moins depuis Kant, qui échappe en effet à cette valorisation du mouvement vital et qui ne puisse sa légitimité d'exercice dans cette mise au pinacle d'un tissu dynamique dont toute la philosophie est affirmée devoir épouser les sinuosités, à défaut de quoi elle se voit accusée de ne pas parler de son objet. Vous citez Fichte, vous citez Hegel, vous citez Marx, inondant l'inerte matière de l'épicurisme d'une inhérente teneur dialectique la rendant pensable. Vous citez Nietzsche et son concept de volonté de puissance, puis celui d'éternel retour. Vous citez Husserl et la prise en garde obsessionnelle de la méthode réductive afin de mettre en évidence les transitivités internes à la conscience et en quelque sorte la ponctuation du flux. On retrouve cette idée de flux et de fluxion. Vous citez Bergson et l'affirmation du privilège de la durée vécue sur toutes les formes spatio-réductrices, tendant à occulter l'élan de vie considéré comme la source de tout acte opéré par le monde ou l'homme. Et vous citez enfin Heidegger, dont la compréhension de l'être met exclusivement en avant la transitivité propre au mouvement d'éclosion et à la dynamique du jaillissement. Alors, comment, en quelque sorte, s'est mis en place ce primat du mouvement dans la pensée, quand même, de ce qui reste un certain nombre de grands auteurs de la pensée philosophique, et surtout, comment a-t-elle dérivé aujourd'hui, dans le second XXe siècle, le premier XXIe siècle, dans cette espèce d'idolâtrie même du mouvement, pour le mouvement, de la mobilité, pour la mobilité.
Bien, dans La vérité captive, il y a deux parties. La première partie, qui fait 400 pages, expose le système dans son entier, le système nouveau qu'est cet ouvrage et explique ce mouvement de décadence en plusieurs temps. Depuis l'origine de la philosophie, donc depuis l'Antiquité, jusqu'à nos jours, et montre la contracture au moment de laquelle a eu lieu cette première déflagration. La deuxième partie, puisque La vérité captive est à la fois un ouvrage total, mais également un ouvrage qui n'est que le premier volume de ce qui constituera un ensemble de 8 volumes, très exactement, et qui constituera le système de l'éternité, de l'histoire et du temps, ne traite ensuite que de la philosophie contemporaine, au sens du mot contemporaine, c'est-à-dire depuis 1800 jusqu'à nos jours. Donc j'ai retracé, d'une part, le mouvement général, le moment fondamental où a eu lieu l'orientation de la philosophie vers l'immanentisme et son choix de devenir une philosophie transitiviste. Bon, premièrement. Deuxièmement, dans l'histoire de la philosophie contemporaine, j'ai vu comment certaines décisions spéculatives avaient été prises, qui sont des décisions extrêmement graves, et des décisions qui ont abouti au cadre où de la modernité nous sommes passés à la postmodernité, et de la postmodernité nous sommes passés à l'outre-modernité. Alors, le premier point où, effectivement, la philosophie termine au moment où elle commence, la philosophie devient une philosophie de l'immanence au lieu de s'installer dans l'élément de transcendance, c'est le moment où Platon exprime la présence d'une transcendance totalement insaisissable. Et Platon, qui était un penseur dont le mysticisme n'est pas approuvé, il y a un passage célèbre dont j'ai déjà parlé, dans La République, où il est question d'un principe qui est au-delà de l'ousia. L'ousia en grec, qu'on peut traduire par, je dirais, l'essence accessible, de la vérité humainement accessible. Il y a une vérité au-delà de la vérité humainement accessible.
L'ousia, c'est ce que l'on a techniquement traduit par substance en latin.
Oui, mais bon,
c'est un terme qui est absolument capital, et pour la philosophie, mais, et pour les sciences, mais, et pour la théologie elle-même.
Substance n'est certainement pas le terme, parce qu'il y a un mot grec pour dire substance, c'est hypokeimenon. Donc ousia, je dirais, en tout cas chez Platon, chez Platon, je dirais que ça c'est dans la terminologie aristotélicienne. Chez Platon, l'ousia serait plutôt, je dirais, l'essence au sens de la vérité humainement accessible, humainement visible. Donc il y a un élément dont Platon dit dans La République qu'il est epekeina, c'est-à-dire au-delà, tes ousias, au-delà de l'ousia, au-delà de l'essence humainement accessible. Cet élément, Platon n'en dit rien. Nous savons dans la lettre 7 que Platon a léguée que Platon a eu des visions mystiques fortes, et nous savons que Platon désigne par son epekeina tes ousias, dans République, référence République 509b, une région, un espace plus précisément, totalement transcendant, l'espace même d'une transcendance, avec un grand T, et non pas une transcendance au sens d'un mouvement de transcendance. Déterminant cette région-là, cependant, Platon ne va pas obtenir de lui-même une philosophie de cette transcendance-là, mais va construire en aval un système de l'idée tourné vers le monde afin de structurer l'harmonie du monde en fonction de la hiérarchie des idées et de son application à l'organisation de la cité grecque, telle que la conçoit Platon. Très bien. À partir de cet apport platonicien vont jaillir différents penseurs qui vont être totalement imprégnés de platonisme, notamment Aristote. On établit toujours une distinction très artificielle entre Platon et Aristote.
Oui, je retiendrai. Aristote a nécessairement dû trahir Platon pour exister.
Oui, non, pas
du tout. Renier complètement Platon.
Bien entendu, il y a une différence entre les deux penseurs, mais il y a aussi il y a un même souffle les traverse, et il y a cette très belle phrase de Heidegger dans le cours sur le sophiste. de Platon, un cours de milieu des années 20, du début des années 20, où il explique que le cours sur le fils de Platon est constitué d'un tiers sur Aristote. Il explique que Aristote est un durcissement de Platon, autrement dit un platonisme au carré en quelque sorte. Bon, donc ça, le grand lecteur que Heidegger était, on ne peut pas lui retirer ça. La philosophie de l'être, la pensée de l'être chez Heidegger a des carences abyssales, mais et au sens non heideggerien du terme abyssal, mais sa manière d'enseigner apprenait beaucoup de choses sur les relations entre les philosophes et entre Heidegger entre Platon et Aristote, il y a effectivement un durcissement. Donc Aristote va durcir la manière dont Platon envisageait les phénomènes, et notamment sur le plan de la façon de concevoir le transcendant. Il n'y a plus du tout, je dirais, de transcendance chez Aristote, au sens où le dieu d'Aristote est totalement coupé des réalités humaines. Il n'intervient plus du tout dans les réalités humaines. Il n'est là qu'à titre d'animateur non intervenant des réalités sublunaires, c'est-à-dire des réalités qui sont à notre portée, les réalités du monde. Bon, il n'y a pas lien entre le monde et lui, mais le monde n'est en mouvement qu'à partir du moment où il est orienté vers la polarité que constitue le dieu aristotélicien. Alors, un dieu qui n'est pas du tout transcendant, de fait, mais qui est une sorte de modèle. Bon, on est très loin de l'epekeina tessusias, de l'au-delà de la vérité humaine, qu'est la vérité divine dont parlait Platon. Et toute la philosophie grecque par la suite va s'engouffrer dans la possibilité ouverte par Platon, qui est une possibilité fermée au divin. Et c'est ça qui est fondamental. À partir de là, la philosophie grecque va s'enfermer dans un immanentisme extrêmement clair, et je ne crois pas pouvoir être contredit sur ce point-là.
Donc pour vous, cet enfermement n'est pas lié à quelque sorte à la rupture de la Renaissance ou du XVIIIe siècle, il est déjà présent.
Ah, il est déjà présent largement dans l'immanentisme grec. Mais du moins, il y a cette chose qui est fondamentale, c'est que d'un côté, vous avez cette pensée grecque qui est immanentiste par le refoulement platonicien de l'épée Caïna et Soucias, ce qui se tient au-dessus de Lucia. Bon, et d'autre part, parallèlement à la pensée grecque, il y a cette pensée, entre guillemets, cette pensée qui, justement, est tellement pensée qu'elle est beaucoup plus que pensée, parce qu'elle elle rejoint le principe de toute chose, elle en fait, elle vit tellement au sein de cette pensée que cette pensée lui vient d'ailleurs. Il y a la pensée juive, la pensée des Hébreux, à savoir la Bible, qui est beaucoup plus qu'une pensée, qui est la révélation même. Et là, évidemment, quelque chose de surpuissant se produit, la révélation de Dieu, comme en Exode 3,14, le Dieu qui dit « Je suis celui qui suis », l'autre, mais qui intervient en permanence lui-même au sein de la vie d'une créature qui lui est totalement différente, l'homme. Et donc nous avons une histoire qui agit en parallélisme, l'histoire biblique d'un côté et l'histoire de la pensée grecque de l'autre. Donc une histoire d'une pensée de transcendance d'un côté et une histoire d'une pensée de l'immanence de l'autre. Les deux se rejoignant.
D'où l'importance de cette rencontre, effectivement, opérée autour du premier siècle de notre ère, avec effectivement le passage de la révélation à travers le christianisme
exactement.
Aux langues au peuple de langue grecque.
Et ben alors, ce qui se passe évidemment à ce moment-là, c'est et ben et voilà, et évidemment apparaît la pensée chrétienne autour de l'incarnation du Christ. Alors je dirais que l'on croit ou que l'on ne croit pas à l'incarnation, qu'il y ait des personnes qui doute de l'incarnation. Bon, écoutez.
Donc, il faudrait peut-être leur expliquer ce que signifie d'abord l'incarnation.
L'incarnation, c'est une chose suffisamment remarquable pour pouvoir nous permettre de mentionner que dans l'incarnation, la différence qu'est Dieu devient précisément une proximité totale. Elle ne s'abaisse pas sur le plan ontologique, elle est bien une différence totale, une différence totale qui se présente dans l'immanence en tant que différence totale. Elle ne devient pas l'immanence, elle perce dans l'immanence, ce qui est quelques réalités totalement inédites. Donc, à ce moment-là, évidemment, la pensée va être totalement bouleversée et la pensée chrétienne émerge. Et elle émerge pour être, pendant un millénaire, plus d'un millénaire, une pensée qui va vivre une réconciliation parfaite entre la foi, comme on dit, et la raison, comme on dit. Parce que entre la raison et la foi, encore faudrait-il qu'on s'entende sur les termes. C'est bien gentil de dire que la raison ne s'attache qu'à des réalités, je dirais, maniables, et la foi n'est qu'une croyance, mais ce n'est pas du tout le cas. La raison est une faculté qui s'attache au contraire à des essences, et la foi est une endurance dans ce que la raison montre être par-delà elle-même comme son fondement suprême. La foi n'est pas une croyance subjective, la foi est l'attachement de la raison à ce que la raison a trouvé rationnellement comme la dépassant. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Il y a une période de l'histoire qui va de Saint Paul à Saint Thomas d'Aquin inclus, où la foi et la raison font une même pensée, une même philosophie, totalement sans faille. À aucun moment il n'y a de distinction, de disjonction, et cette disjonction n'aura lieu qu'après saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, où fidéisme et rationalisme vont commencer de se séparer.
Bien, Marc-Sens Caron, vous nous avez donc décrit avec beaucoup de force et de maestria ce qui avait marqué cette convergence, en quelque sorte, de la pensée grecque et de la révélation hébraïque, et de quelle manière c'était, du coup, articuler cette unité entre la raison et la foi dans toute la pensée médiévale. Mais je voudrais avec vous analyser au contraire comment cette dissociation fondamentale entre la raison et la foi avait produit une mutilation de la raison d'un côté et une destruction de la métaphysique de l'autre, c'est-à-dire une incapacité, ou en tout cas une incapacité proclamée de la raison à dire le vrai, à accéder au réel et à saisir en quelque sorte l'essence des choses telles qu'elles sont. C'est quelque chose qui apparaît avec force lorsque l'on analyse la philosophie contemporaine et qui est même revendiqué comme telle par les sociologues ou les philosophes de la science. Je voudrais ici citer Paul Feyerabend qui, analysant la méthode scientifique, dit explicitement « L'idée que la science peut et doit être organisée selon des règles fixes et universelles est à la fois utopique et pernicieuse » et qui justifie ce discours en explicitant, en disant « Toutes les méthodologies ont leurs limites et la seule règle qui survit, c'est « tout est bon ». On voit ici, en quelque sorte, de quelle manière l'idée que les méthodologies ne soient pas universelles ou valables partout, qu'en quelque sorte, la méthodologie qu'on applique en physique ne s'applique pas nécessairement de la même manière en biologie, devient une justification du relativisme et du « tout est bon ».
C'est-à-dire que oui, il transforme une déclaration d'humilité de la science qui autrefois était présente, à savoir, bon, ben, il peut y avoir une certaine richesse de méthode, une certaine richesse de recherche. Lui, il pose un relativisme général, évidemment, à la source même des sciences. D'ailleurs, dévalorisant tous les résultats qu'il pourra avoir par ailleurs, puisque dès lors qu'il aura un résultat, alors qu'il affirmera évidemment avec grand fracas, il dira que, enfin, il sous-entendra par ce qu'il vient d'affirmer là, que le résultat est caduque d'emblée, puisque il pourra être soumis à un changement extrêmement rapidement. Donc, dès lors qu'il pourra soutenir une thèse, on se demande avec quelle force il pourra la soutenir, puisqu'il a précisé.
Cette thèse est supposée être contredite par la thèse suivante.
Voilà. Dès lors qu'il y en aura une autre. Voilà. Donc, c'est vraiment assez curieux. Donc, au lieu dans la science, au lieu de voir des couches de réalité se superposer pour s'approfondir, dans une démarche unitaire, lui, il pose la dissémination au principe d'une recherche qui, en fait, ne peut pas prendre la dissémination autrement que comme une boutade, si jamais elle veut continuer à être une science.
Alors, précisément, cela apparaît explicitement dans les propos de Paul Feyerabend, donc prétendument grand philosophe.
Paul Feyerabend, vous vous rendez compte à quoi on en est réduit. C'est quand même d'une tristesse.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est aujourd'hui.
Oui, je sais.
C'était,
voilà, mais aujourd'hui,
dans l'enseignement,
qui eût cru qu'aujourd'hui serait devenu un gros mot. Enfin bon, allons-y.
Donc Paul Feyerabend, analysant justement ce fonctionnement de la science, dit « Je prétends que toutes les règles ont leurs limites et qu'il n'y a pas de rationalité globale. Je ne prétends pas que nous ne devrions avancer sans règles ni critères, mais qu'aucune règle ne nous permet d'entrer dans une rationalité globale. » Et du coup, Feyerabend en arrive à formuler cette suggestion plutôt étonnante ou plutôt bizarre. « Notre premier pas dans la critique des concepts et réactions habituelles doit consister à sortir du cercle et soit à inventer un nouveau système conceptuel, par exemple une nouvelle théorie qui entre en conflit avec les résultats d'observation les mieux établis ou qui bouleverse les principes théoriques les plus plausibles, soit à importer un tel système à partir de l'extérieur de la science, de la religion, de la mythologie, des idées des gens incompétents ou des divagations de fous. » Alors, que vous inspirent ces réflexions sur cette nécessité de prendre le contre-pied absolu de tout ce qui s'était fait auparavant pour pouvoir avancer en science ou en quelque sorte de...
Écoutez, pour moi, ce sont les propos d'un désespéré qui a tel manque de créativité intérieure qu'il ne sait pas prendre au sein même de ce qu'il pratique ou de ce qu'il dit aimer, à savoir la science elle-même, les ressources qu'elle porte en elle-même et qui, tout simplement... montre à quel point le nihilisme est intégré à sa propre démarche. Alors, il ne sait pas quoi faire. Il va faire ses courses au supermarché. Avant, il se nourrissait de tel aliment et maintenant, il va prendre autre chose. Voilà. Alors, il se disait que autrefois, le slim fast faisait son affaire et maintenant, il va aller manger le gras du jambon. Et puis après ça, il va aller prendre les épluchures de saucisson. Et puis alors, etc. Voilà. En espérant que de là,
consumérisme, hein, en quelque sorte.
Mais complètement. Alors, il va piocher à droite, à gauche. Etc. Il va remplir son cabas de je ne sais quoi en espérant que les réactions chimiques ne viendront plus de l'intérieur même de la démarche scientifique, mais de l'extérieur par des entrechocs artificiels au sein desquels, peut-être par miracle, on trouvera dans cette espèce de morosité à penser correctement, puisqu'on ne pense jamais plus correctement, dans cette morosité, on trouvera peut-être un jour un résultat au gré d'un mélange, certainement que ce monsieur Feyerabend a trouvé au fin fond d'un calcul probabiliste que un jour ou l'autre, au bout de 100 ans, avec sa méthode, on trouverait un résultat et donc on pourrait le lui attribuer. C'est peut-être la seule manière qu'il a, au fin fond de sa médiocrité, de tomber sur un jour une chance que son nom résonne encore alors que lui ne résonne plus.
Voilà. Oui, où l'on voit qu'en un sens, l'affirmation du relativisme rejoint cette obsession du nombrilisme
que
vous avez souligné.
C'est la pratique du musée imaginaire, mais en science. Allons glaner le langage religieux, le langage philosophique, le langage de la psychiatrie, le langage de tous les langages poétiques, etc. Pour en faire de la foire à bestiaux scientifiques. Enfin, c'est absolument extraordinaire. Non, vraiment, je découvre avec vous cette citation. J'en suis amusé. Enfin, je vois que les scientifiques s'emmerdent. C'est extraordinaire.
Mais en l'occurrence, ce sont plutôt justement des sociologues ou des philosophes des sciences. Mais je crois qu'il vaut la peine de voir, parce que c'est le même sujet, comment cette dénégation de la métaphysique dérive dans le discours sur la science ou dans la pratique scientifique elle-même en une sorte de relativisme exacerbé. Les auteurs, par exemple, du programme fort de sociologie des sciences, donc des auteurs qui aujourd'hui font la loi en quelque sorte dans le discours sur ce qu'est la science et la manière dont elle pratique, disent, je cite ici les propos de Barry Barnes et de David Bloor, « Loin d'être une menace pour une compréhension scientifique des formes du savoir, le relativisme est nécessaire à cette compréhension. Ce sont ceux qui s'opposent au relativisme et qui veulent accorder à certaines formes de connaissances un statut privilégié, donc l'idée qu'il existe une vérité notamment, ou qu'il existe un primat de la métaphysique, ou que les mathématiques disent le réel sur certains plans. Ce sont ceux donc qui s'opposent au relativisme et qui posent le véritable obstacle à une compréhension scientifique de la connaissance et de la cognition. » Que vous inspirent ces propos? On ne peut pas, aveu plus explicite de profession plus explicite de relativisme.
C'est bien, nous aurons de beaux fours à micro-ondes dans les prochaines années.
Alors, il me semble que pour approfondir cette analyse et voir comment elle nous fait rejoindre la question de la vérité, il faut aller plus loin encore dans l'analyse du programme de sociologie des sciences. Ces mêmes auteurs disent « Le relativiste, comme tout le monde, doit faire un tri dans ses croyances, en accepter certaines et en rejeter d'autres. Il aura naturellement des préférences, et celles-ci vont en général coïncider avec celles d'autres personnes qui habitent au même endroit. Les mots « vrai » et « faux » fournissent l'idiome dans lequel ces évaluations sont exprimées, et les mots « rationnel » et « irrationnel » remplissent une fonction similaire. »
Tout est dit, là, vous avez tous les mots, vous avez « croyances » déjà. Hein. Ouais. Alors que le scientifique doit se fonder sur des raisons. Là, il parle du philosophe qui a des croyances, il parle du scientifique qui se meut dans les croyances, du scientifique qui parle un idiome. Mais tout est là pour vous subjectiver la science, alors que la science est l'usage du rationnel, l'usage de ce qui est clair et distinct, disait Descartes. Mais vous imaginez, vous, une seule seconde, un Leibniz tombant sur des textes pareils. Non mais c'est absolument insensé. Mais je vous dis, on traverse une époque...
Et nous y sommes.
Oui, on traverse, parce que je pense que nous en sortirons un jour par la grâce de Dieu. Mais par la grâce de Dieu seulement, pas par la grâce des hommes. Hein. Nous traversons une époque...
Oui, alors c'est peut-être là où votre réponse est quelque peu désespérante. C'est que vous pensez notre propre activité humaine ou par nos propres forces, nous ne pourrons pas nous sortir de ce discours qui aujourd'hui ou envahit directement la pratique scientifique et la réflexion sur le vrai.
Écoutez, il y a un poème de Michel-Ange qui m'avait beaucoup marqué, où il disait lui-même que tout ce qu'il faisait de bon, c'était à Dieu qu'il l'attribuait, et tout le mauvais, c'était à lui qu'il l'attribuait. Bon, c'est une pensée chrétienne que l'on trouve souvent, mais l'entendre chez Michel-Ange, qui est cet homme si puissant, si génial,
c'est
quelque chose de voilà. Et je pense tout simplement que tout ce qu'il y a de bon nous provient de Dieu. Donc si jamais nous sortons de ce marasme innommable et de cette marmelade innommable dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et où certains ont encore la naïveté de croire qu'elle n'existe pas, cette marmelade. Bon, eh bien, si jamais nous en sortons un jour, ce ne sera certainement pas grâce à nous, mais uniquement grâce à un phare ou un autre phare, je prends le terme au sens baudelairien, que nous aurons réussi à suivre, parce qu'il nous
cette
aura été monté...
Cette lumière dans la nuit qui nous est annoncée à Noël, peut-être
De toute façon, la lumière dans la nuit, elle nous est annoncée à Noël, elle nous est annoncée depuis le 1er 25 décembre de tous les temps, celui de l'an zéro, le vrai an zéro, pas celui des révolutionnaires. Donc cette lumière qui dispose des prophètes, des saints, qui dispose de la sainteté des vrais artistes, c'est ça qui pourra nous montrer cette voie. Mais je crois que de même qu'il y a un mystère divin, il y a aussi un mystère de la nullité. Et nous sommes à l'époque où le mystère de la nullité est tellement... La nullité au sens grave du terme, hein, c'est-à-dire du zéro, du néant. Hein. Le mystère du néant est tellement grave aujourd'hui qu'il faudra la force de Dieu pour nous en sortir. Ce n'est pas mon petit discours personnel et mon livre qui touchera quelques personnes, peut-être... de bonne volonté qui changeront quoi que ce soit. Nous sommes dans un tel dans une telle déconfiture à tous les niveaux. Les scientifiques ont jeté l'éponge, les philosophes n'existent plus, le beau style n'existe plus, quand il essaye de faire un effort, on le lui reproche. Bon, cette époque d'outre-modernité, comme il y a l'outre-tombe, cette époque a besoin d'une intervention directe de la grâce pour pouvoir muer vers quelque chose de plus réjouissant, de plus lumineux. Nous sommes au fin fond de la ténèbre, une ténèbre qui ira encore croissant avant de pouvoir nous donner quelque chose de plus spacieux, enfin quelque chose d'autre, enfin quelque chose de moins pire, si je puis m'exprimer ainsi.
Alors, ce qui me semble particulièrement intéressant dans votre démarche, notamment dans cet ouvrage La vérité captive de la philosophie, c'est précisément que vous établissez ce lien, ce parallèle entre ce qui se produit dans l'ordre des arts, ce qui se produit dans l'ordre des sciences, ce qui se produit dans l'ordre de la philosophie. Et je suis frappé, notamment dans votre analyse, dans votre telle que vous la développez dans La vérité captive, de cette obsession de l'immonde qui caractérise en partie nos contemporains. Alors, vous l'analysez très bien avec dans l'ordre esthétique, dans l'ordre artistique. On pourrait avoir toute une réflexion sur la question de l'art contemporain tel qu'il se déploie, et dans cette sorte de prédilection pour la scatologie. On pourrait le faire, et on le fera si on a le temps, dans l'ordre de la philosophie, mais je voudrais avec vous réfléchir à ce qui se déploie sous cet horizon, dans l'ordre de la réflexion sur les sciences et la philosophie des sciences, c'est-à-dire cette obsession du chaos. La figure du chaos qui a pris une dimension tout à fait considérable au point de devenir le, justement, en place, en lieu et place de la notion d'être ou d'ordre ou de rationalité, le nec plus ultra ou le point de départ de la réflexion scientifique. Alors, un auteur, par exemple, comme Jean-François Lyotard, dans son ouvrage La condition postmoderne, hein, vous parliez de l'outre-modernité.
Quel lui, grand homme!
Lui cite donc son ouvrage pour titre La condition postmoderne, indique que la science postmoderne a pour vocation d'effectuer une d'être une recherche des instabilités.
Lyotard, un mot qui finit si mal.
Alors, vous êtes là quelque
que, comme peu. Comme dirait Proust de Madame de Cambremer, qui disait un nom, oui, un nom qui se termine à temps. Il n'a pas eu cette chance, Lyotard.
L'homme qui vient trop tard, peut-être. Oui. En tout cas, cette définition, cette assignation à la science postmoderne d'être une recherche des instabilités, est-ce que elle ne nous fait pas rejoindre, en quelque sorte, cette obsession du mouvement que vous décriviez précédemment et, en même temps, cette quête relativiste.
Le postmoderne, d'après Lyotard, je prends la terminologie de Lyotard, mais je n'entends pas dans le même sens que lui. Le postmoderne, on va prendre l'acception obvie du terme, c'est un homme qui s'ennuie tellement, qui a tellement supprimé toute intervention de l'être au fond de sa vie, de son individualité, qu'il faut qu'il bouge. Donc il faut qu'il invente un avatar d'être qui soit la mobilité même. Hein. Donc,
le bougisme est une des versions de l'outre-modernité.
Le bougisme, comme vous dites, c'est, c'est ce qui accompagne ce dont Joseph de Maistre, ce que Joseph de Maistre aurait appelé le riennisme. Le rien-isme, c'est vraiment voilà, l'époque s'ennuie, l'époque s'enlise, etc. Donc qu'est-ce que vous voulez ? Il faut que ça bouge, il faut qu'on sorte, il faut que Titine et Frise Poulet s'encanaillent tous les samedis soirs, il faut que ça transhume. Bon, et ben tout ça, ça se retrouve dans les principes philosophiques de base. Et Feyerabend, et Lyotard, les Gattari, les compagnies. Et tous ces grands absents du concept qui ont gonflé chaque page de toute leur toute leur nuisance, tous ces gens-là sont des personnes qui veulent absolument plonger au fin fond de l'immanence pour trouver une alternative à l'ennui. Et ne cherchent même pas les conditions de possibilité de l'ennui. C'est pour vous dire à quel point ils sont complètement à côté de toute forme de pensée. Ils ne recherchent même pas les conditions de possibilité. Ce sont des êtres perdus dans l'épaisseur d'une réalité qu'ils veulent exclusivement matérielle. Ils veulent devenir des matières, des machines, des robots. Ce sont véritablement des full metal jackets. Ouais.
Alors, précisément,
sont les GI d'un concept qu'ils ont en plus complètement déconceptualisé. C'était absolument incroyable. Ils partent en guerre contre tout ce qui peut être à peu près pensable, pensant. Ce sont des oranges mécaniques.
Mais alors précisément,
ce sont des oranges mécaniques qu'on leur offre dans leur prison.
Dans leur démarche, me semble-t-il. Ils mettent en avant avec force et obsession justement ce primat du chaos et qui justifie pour eux l'impossibilité en quelque sorte d'atteindre le réel. Je cite à nouveau deux auteurs majeurs de la philosophie contemporaine française, portés au nu par l'université française, en tout cas les départements de philosophie, Deleuze et Guattari. Dans leur livre « Qu'est-ce que la philosophie ?», donc qui a été un best-seller en France en 1991, l'un de leurs thèmes
d'ailleurs,
de prédilection...
vous avez remarqué que maintenant on sait ce que c'est que la philosophie.
L'un de leurs thèmes de prédilection est la distinction entre philosophie et science. Et donc, selon Deleuze et Guattari, la philosophie s'occupe de concepts, tandis que la science s'occupe de fonctions. Et ils décrivent ainsi ce contraste. Je vous laisse méditer et peut-être me dire ce que vous inspire cette distinction. La première différence est dans l'attitude respective de la science et de la philosophie par rapport au chaos. On définit le chaos, disent Deleuze et Guattari, moins par son désordre que par la vitesse infinie avec laquelle se dissipe toute forme qui s'y ébauche, donc le refus de l'ordre, de la structure et donc de la rationalité. C'est un vide qui n'est pas un néant, mais un virtuel, contenant toutes les particules possibles et tirant toutes les formes possibles qui surgissent pour disparaître aussitôt, sans consistance ni référence, sans conséquence. C'est une vitesse infinie de naissance et d'épanouissement. Est-ce que nous ne sommes pas là justement dans l'expression même de ce cratilisme, de cet héraclitéisme, de ce mobilisme? Mais
écoutez, c'est juste ce que j'allais vous dire avant que vous ne citassiez c'est somptueux philosophe. Philosophe, pardon, excusez-moi, de galvauder ce joli mot. Le chaos, c'est tellement pratique. N'oubliez pas cette simple phrase de Dostoïevski, si Dieu est mort, tout est permis. Bon, le chaos, c'est une manière de dire, c'est un synonyme de la mort de Dieu. Eh bien, voilà, tout est permis, vous voyez, la potentialité, la virtualité, etc. Et tout est permis, y compris que des imbéciles comme ces deux-là qui alors battent tout, enfin, qui ont l'Oscar, le Razzie Award de toute la nullité philosophique contemporaine, puissent devenir des gens qu'on lit. C'est incroyable. Vous vous rendez compte qu'on est dans le pays où on lit ces deux-là? Non, mais c'est incroyable. Moi, c'est impensable. Moi, il m'arrive de me lever le matin en me disant, je suis dans le pays où on lit ces deux-là. Ces deux-là qui, dans les années 70, ont ouvert un centre qui s'appelle Gourgas, où on vivait en communauté. Vous voyez, on vivait en communauté, c'était sympa. On faisait la cuisine en communauté, on faisait les non-enfants en communauté, etc. Voilà, Gourgas.
Mais c'est une autre forme d'hypermobilité.
Sponsorisé par Deleuze et Guattari, l'anti-Oedipe au quotidien. Voilà. Donc, vous voyez, bon, écoutez, donc tous ces espèces de guignols, c'est formidable, c'est fait pour les concierges du concept. Non, retenez que l'homéoprotérone de ces deux termes. Donc, voilà, bon, très bien. Alors, le chaos, c'est très bien. Et à partir de là, ils peuvent développer leur théorie du rhizome, etc. Ils en ont d'ailleurs le visage. Donc, c'est magnifique. Bon, alors, avec le chaos, on fait n'importe quoi. C'est précisément ce qu'ils ont toujours voulu faire. Je n'ai jamais lu une ligne de ces gens-là qui vaille une seconde de semi-méditation. Pourtant, malheureusement, j'en ai donné un peu plus d'une seconde quand j'ai eu la faiblesse et de perdre mon temps à lire ces gens-là, de même que j'ai eu la faiblesse de perdre mon temps à lire Derrida, à lire tant d'autres imbéciles qui n'ont absolument rien à nous apprendre. Si Pascal avait connu des gens comme ça, il n'aurait jamais dit la philosophie ne vaut pas une heure de peine. Il aurait dit la philosophie ne vaut pas. Il aurait changé d'unité de mesure, si vous voulez. Bon, voilà. Bon, alors là, évidemment, la théorie du chaos, je vous dis, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Virtualité, etc. On peut dire tout et n'importe quoi. On peut s'autoriser d'absolument toutes les formes de délire conceptuel possible et appeler ça concept. Alors qu'on est précisément dans l'imaginaire pur, on est dans une forme de littérature qui est en plus l'inélégance absolue. Parce que faut regarder comment ils écrivaient, ces gens-là. Regardez comment écrivait Derrida, par exemple. C'est absolument effroyable.
Nous y venons précisément. Je voudrais vous citer encore quelques passages parce qu'il nous ramène en plein dans la question effectivement du fonctionnement des sciences telle que les philosophes d'aujourd'hui la décryptent. La science, disent-ils, toujours dans Qu'est-ce que la philosophie, n'est pas hantée par sa propre unité, mais par le plan de référence constitué par toutes les limites ou bordures sous lesquelles elle affronte le chaos. Ce sont les bordures qui donnent au plan ses références. Quant au système de coordonnées, il peuple ou meuble le plan de référence lui-même. Donc voilà la définition, entre guillemets, géométrisée que ces auteurs donnent de la philosophie. Et alors, ce qui est intéressant, c'est la manière, par exemple, dont ils vont instrumentaliser le concept de principe d'incertitude, tel que la physique quantique le met en évidence, en disant, par exemple, toujours dans Qu'est-ce que la philosophie, en règle générale, l'observateur n'est ni insuffisant ni subjectif. Même dans la physique quantique, le démon de Heisenberg n'exprime pas l'impossibilité de mesurer à la fois la vitesse et la position d'une particule, sous prétexte d'une interférence subjective de la mesure avec le mesuré, mais il mesure exactement un état de choses objectif qui laisse hors du champ de son actualisation la position respective de deux de ces particules, le nombre de variables indépendantes étant réduit et les valeurs des coordonnées ayant même probabilité. Et ils en tirent comme conclusion l'idée que les interprétations subjectivistes de la thermodynamique, de la relativité et de la physique quantique témoignent des mêmes insuffisances. Le perspectivisme ou le relativisme scientifique n'est jamais relatif à un sujet. Il ne constitue pas une relativité du vrai, mais au contraire une vérité du relatif. C'est-à-dire que ce relativisme moderne de la science n'est pas assez relativiste.
Vérité du relatif. Rien que cette expression est extraordinaire. Une vérité du relatif. Mesurez un peu ce que ça veut dire.
Sans doute, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ce processus en quelque sorte hyperbolique du mouvement révolutionnaire, où il faut être toujours plus révolutionnaire que son prédécesseur, et il considère que les scientifiques relativistes, ou en tout cas qui prennent acte du fait qu'une théorie n'est valable que dans un champ, ne sont pas assez relativistes et qu'il faut être des relativistes absolus, en quelque sorte.
Oui, c'est ça.
Des relativistes
voilà. Donc,
intégraux.
C'est parce que je vous dis, la vérité est captive. On ne peut pas éliminer la vérité. On ne peut pas éliminer cette elle précède absolument toute volonté d'énonciation, toute affirmation, toute assertion. Il y a cette phrase magnifique d'Origène qui dit dans le Contre-Sels, dans le deuxième livre du Contre-Sels, il n'y a pas d'athée, il n'y a que des idolâtres. L'athée est celui qui détourne sur n'importe quoi d'autre que Dieu l'indestructible notion de Dieu. Voilà. Et aujourd'hui, ces gens-là, qui ont des honneurs, des foules, vous voyez que c'est dangereux la foule. Hein. Donc c'est dangereux vraiment.
Oui, qui sont promus, considérés comme les plus grands philosophes
par leur
de l'histoire.
Père, voilà, le philosophe de l'histoire. Mais combien de planètes ignorent notre histoire? Donc, ces gens-là ont tout simplement fait un déplacement de cette indestructible notion de vérité vers ce qui est totalement sans valeur et vers le contraire de la vérité. La pulsion de vérité, si je puis m'exprimer ainsi, je dirais plutôt l'instinct de ciel, pour parler joliment, est tout simplement détourné vers le contraire du ciel. Donc nous avons cet exemple caractérisé que je nomme, dans La vérité captive, la misosophie. L'amour de ce qui n'est pas la sagesse, ou la haine de la sagesse, la haine de la vérité. Nous avons là un exemple de misosophe qui pullule partout, dans les laboratoires. Voilà. Alors, chers amis, dormez sur vos deux oreilles, nos scientifiques veillent.
Alors, un autre nom, me semble-t-il, qui entre dans ce champ si joliment décrit par vous sous le nom de misosophie, c'est celui de Bruno Latour. Latour se présente comme un sociologue des sciences et sa thèse fondamentale, c'est l'idée que le contenu d'une science est social de part en part, ce qui est une autre manière d'exprimer.
Latour, encore une flèche, allons-y donc.
Et cette idée que la science est sociale de part en part, donc ce qui veut dire qu'elle n'atteint aucune vérité, qu'elle ne permet pas de manifester quelque rationalité que ce soit, il l'exprime à travers un certain nombre de concepts, notamment en récusant toute idée de principe de référence. Il dit notamment il s'assigne pour tâche ambitieuse de justifier l'idée selon laquelle on peut faire une analyse de la relativité qui évite les aspects techniques de la théorie et qui ne soit pas arrivé à donner une indication qui permettrait de dire que la théorie de la relativité elle-même est sociale. C'est-à-dire que la théorie de la relativité elle-même, pour Bruno Latour, serait le fait d'un contexte, d'une époque, mais n'aurait aucune validité à long terme.
Merci, monsieur Latour.
Et il poursuit cette analyse en disant que la plupart des difficultés liées à l'histoire ancienne du principe d'inertie sont reliées à l'existence de seulement deux systèmes de référence. La solution, ajoute-t-il, est toujours d'ajouter un troisième système qui récolte les informations envoyées par les deux autres. Pour le transforme ainsi, c'est ainsi qu'il explique la soi-disant obsession d'Einstein pour la recherche des référentiels non galiléens. Pour le transfert d'informations à travers des transformations sans déformation, on voit aussi là le jeu permanent des philosophes contemporains sur le langage. Sa passion pour la superposition précise des relevés, sa panique à l'idée que les observateurs puissent trahir, puissent conserver des privilèges et envoyer des rapports. et envoyer des rapports qui ne puissent être utilisés pour étendre nos connaissances. Son désir de discipliner les observateurs délégués et de les transformer en parties d'appareils dépendant de nous et qui ne font rien d'autre qu'observer des coïncidences d'aiguilles et d'encoches. pour lui, il y a là effectivement la manifestation chez Einstein d'une obsession disciplinaire, d'une obsession pour la règle qui est en elle-même suspecte. Et on voit de quelle manière ces auteurs cherchent à déconstruire l'exercice même de la raison en la qualifiant systématiquement ou de pathologique ou de névrotique ou de fasciste. Mmh.
C'est impressionnant.
Alors, une dernière...
Un dernier cadeau de Noël.
Un dernier cadeau de Noël avant de venir à la surzomption. C'est alors... peut-être alors, la théorie des genres qui, me semble-t-il, va aussi dans le sens de cette hypertrophie, hyperbole relativiste. Je vous cite ici Luce Irigaray.
Ah, donc, Luce Irigaray, but last.
Oui. Une disciple donc de Lacan, une psychanalyste et linguiste de la philosophie des sciences.
Les disciples de Lacan n'ont malheureusement pas grand-chose à voir avec leur maître, qui lui quand même savait penser. Notamment à...
Alors en l'occurrence, pour Luce Irigaray, elle a cette phrase liminaire « Toute connaissance est produite par des sujets dans un contexte historique donné ». Même si elle tend à l'objectivité,
ah,
même
c'est
si
pas
ces
du Lacan,
techniques
ça, hein.
se veulent des moyens de contrôle de celle-ci, la science manifeste certains choix, certaines exclusions, dues notamment au sexe des savants. Alors
oh
là, nous
là.
Rentrons dans l'idée que
oh là là.
La science ne s'exprime pleinement qu'à travers un jeu, une guerre des sexes permanente,
bah
et que
oui.
ce qui est apparu comme vérité à travers l'histoire n'a été que l'effet d'un rapport de domination d'un sexe sur l'autre.
Mais dites-moi, c'est très très original ce que dit Luce Irigaray. D'ailleurs, je prends des notes avec dévotion pendant que vous voyez. D'ailleurs, j'ai les deux mains croisées. Donc, voilà. Luce Irigaray, très bien.
Tout
un nom qui viendra s'inscrire comme une étoile au ciel du monde, disait l'autre.
Ce qui me semble intéressant, et c'est juste une manière d'illustrer en quelque sorte...
Ah oui, ça illustre, hein, ça, alors là, c'est impressionnant.
Rationnel ou philosophique, c'est l'idée que, précisément, la mort de Dieu entraîne la mort de la vérité, et du coup...
Et l'encéphalogramme plat. Hein, surtout,
oui, mais plus qu'un encéphalogramme plat, une sorte de,
un encéphalogramme
de guerre permanente...
qui va dans R-étoile, oui.
Oui, de guerre permanente des uns contre les autres, et notamment... à travers les gender studies, l'idée d'une guerre permanente des sexes, comme si la vérité ne pouvait pas être manifestée de manière universelle. En fait, ce que l'on a perdu à travers cette idée de métaphysique, c'est aussi l'accès à l'universel.
Enfin, pour une disciple de Lacan, parler de guerre des sexes comme ça, c'est assez drôle. Je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que ça nous mènerait trop loin, mais enfin là, quand même. Elle devrait lire le séminaire de son maître.
Alors... Oui, mais les choses vont tout de même loin, parce qu'on sait que c'est une discipline qui, aujourd'hui, est enseignée dans toutes les universités. Et par exemple, l'une des grandes thèses de ces philosophes ou de ces historiens des sciences, c'est de dire que si l'on s'était intéressé à la physique du solide, c'est parce que ce sont des mâles, des hommes qui ont fait de la physique, alors que si l'on s'était intéressé à la physique des fluides, alors que si c'était des femmes...
On aurait travaillé sur les huîtres, oui certainement.
Voilà. Mais, non, bon, ce n'est pas tout à fait ce qu'elle dit, mais si les femmes avaient été au pouvoir et avaient pu accéder au poste honorifique en matière de physique, on se serait davantage intéressé à la physique des fluides. En tout cas, c'est une manière d'illustrer ce propos sur, effectivement, ce qu'est aujourd'hui l'état de la réflexion sur la philosophie et sur la science.
De quoi écrire un livre du surréalisme en science, du sous-réalisme en science.
Alors, pour terminer, peut-être, Maxence Caron, comment pensez-vous que nous puissions sortir, justement, de cette misosophie, de cette...
Je vous l'ai dit.
Refus de la vérité,
vous venez de voir
le réel tel qu'il est.
Vous venez de décrire des choses qui me font souffrir physiquement, tant elles sont niaises, abjectes et absurdes. Enfin, c'est absolument effroyable. Là, je ne sais pas. Comment, je vous l'ai dit, nous ne pouvons pas sortir de cela. Pardon. Comment voulez-vous expliquer à Luce Irigaray que 2 plus 2 ne font pas 5.
Bon, donc c'est pas possible. Vous pouvez lui expliquer ça. C'est pas possible. Il est animé par des tas de choses qui ne sont pas de l'ordre de la raison. Les autres guignolent. C'est la même chose. Donc, on ne peut rien expliquer. Les gens ne veulent pas entendre quoi que ce soit. Donc vous pouvez écrire le plus beau livre du monde. D'ailleurs, il y a un livre qui est le plus beau livre du monde, qui est en circulation depuis des millénaires. Il s'appelle la Bible, je crois d'ailleurs. Il s'appelle la Bible, oui. Eh bien, les gens ne le lisent pas. Alors, rien ne peut nous sortir de là. Le mouvement, la lame de fond qui traverse notre époque est absolument bouleversante. Ce qui pourra nous sortir de là, c'est précisément l'enfant qui naît ce soir même, dans la nuit de Noël. Et dans la nuit de Noël, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu donne sa différence fondamentale, il donne son altérité de bonheur, il la met à la portée des hommes pour leur expliquer « Les amis, c'est bien gentil, mais c'est pas vous qui vous sortirez de là tout seul. » La vérité captive que j'ai écrit et qui est paru récemment, eh bien, est un livre précisément que je considère comme le seul livre de philosophie possible aujourd'hui. Et pour le reste des temps qui viennent, c'est le livre qui prépare la venue de ce règne par lequel Dieu interviendra de nouveau directement dans l'histoire et nous donnera sa grâce de manière spectaculaire après nous l'avoir distillé de manière invisible, de manière tout aussi spectaculaire d'ailleurs également.
Dans le doux zéphyr, non pas dans le fracas du tonnerre.
Dieu a écrit dans Isaïe, a dit à Isaïe, quand j'agirai, j'agirai vite. Et effectivement, ça rejoint tout ce qu'il dit dans les évangiles, quand il est question du jour du Seigneur comme arrivant comme un voleur dans la nuit. Ça se passera très vite. Mon ambition de philosophe n'est rien d'autre que de montrer que la raison et la foi n'ont absolument rien de contradictoire, que la raison peut arriver aux conclusions de la foi en s'arrêtant sur le seuil de ces conclusions, mais de montrer qu'il est totalement rationnel d'arriver à ce que la foi montre comme étant son dépôt. Donc, est totalement rationnel et que c'est la plus grande des rationalités, que la plus grande des raisons de la raison, c'est la raison qui dit à la raison qu'elle a trouvé un milieu qui la dépasse et dans lequel elle finira par écouler son propre épanouissement.
Voilà. Eh bien, c'est sur cette magnifique ode à la raison en même temps qu'à la foi que nous conclurons pour aujourd'hui, Maxence Caron.
Voilà. Dans cette, la philosophie, de Noël. C'est la philosophie, en quelque sorte, aujourd'hui, à être le Saint Jean-Baptiste des événements glorieux qui auront lieu quand le Christ reviendra.
Eh bien, c'est sur ce message d'espérance, particulièrement adapté à cette journée de Noël, que nous conclurons pour aujourd'hui. Maxence Caron, pour ses éclairages, un immense merci.